au sein du parti de faire en sorte que les idées triomphent des violences verbales.
Léa Salamé.
Oui, quelques questions d'actualité, quelques questions sur les dernières positions de Laurent Wauquiez pour savoir si vous les partagez ou vous exprimez votre désaccord avec lui sur ces questions-là. D'abord, la loi Taubira, il a changé d'avis, il a répété pendant des mois et des mois qu'il, s'il revenait au pouvoir, il abrogerait la loi Taubira. Là, il ne le dit plus, il dit qu'il ne l'abrogera pas concernant le mariage. En revanche, il veut l'amender concernant la PMA et notamment il a réitéré sa position sur la PMA pour les femmes homosexuelles. Est-ce que vous êtes de son avis?
Alors d'abord, effectivement, il a infléchi sa position sur la loi Taubira. Je pense que on peut ne pas être d'accord avec une loi, puis ensuite elle devient la loi de la République, et on ne défait pas obligatoirement tout ce qu'ont fait nos prédécesseurs, même s'ils n'étaient pas du même bord. Donc je pense que...
Donc il a bien fait de changer d'avis.
Il a bien fait de poser les éléments dans ces termes. J'ai bien écouté ce qu'il a dit, et on en a souvent discuté sur la PMA, et il se pose légitimement la question de l'enfant. Et il a dit ma part d'incertitude. Il a plusieurs fois dit ce mot. Donc je crois que sur les sujets bioéthiques, les sujets de société, là aussi, et pardon de dire ça, si moi j'ai imposé dans la loi de 2011 que les états généraux des lois bioéthiques et des sujets de société soient obligatoirement des sujets qui imprègnent l'ensemble des citoyens et qui soient pas réservés aux experts ou aux politiques, c'est bien pour que le débat soit apaisé. Et dans le débat qui va arriver...
Pardonnez-moi, il reconnaît sa part d'incertitude, mais il est opposé à la PMA étant dû aux femmes homosexuelles, et il veut changer encore la loi Taubira sur l'adoption.
En 2011, on s'est posé la question, et la procréation médicalement assistée, à quoi sert la médecine? La médecine, généralement, on essaie de guérir des pathologies ou de les compenser, voilà, quand il y a un handicap. La procréation médicalement assistée, aujourd'hui, assez logiquement, elle s'adresse aux couples stériles. Donc, est-ce qu'on doit franchir le pas ou non? C'est un débat.
Quel est votre avis, votre intime conviction à vous, qui connaissez bien ces problèmes biotiques?
C'est le sujet qui me paraît le plus difficile, parce que à la fois, vous savez, en bioéthique ou en société, il y a toujours deux valeurs qui s'affrontent. Et c'est le cas là aussi. Il y a une valeur de l'autonomie et de la liberté. C'est mon droit, c'est mon choix, c'est le jeu qui parle. Et puis il y a une valeur qui est le collectif et quel est le sens de ce que l'on donne à la loi quand elle va dire ça. Moi, je m'inquiète pas de l'amour que puisse recevoir un enfant né d'une PMA par un couple homosexuel ou une femme célibataire. Pour moi, c'est la même chose. Si on franchit le cap, on franchit le cap pour les deux. Ce qui m'interroge, c'est de dire est-ce qu'on peut raconter une histoire qui est, je dirais, biologiquement fausse, c'est-à-dire tu n'as pas de père. Ton père est un spermatozoïde, etc. Et je me pose la question de savoir si, dans la société française aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une référence père et d'une référence mère. On peut perdre son père, il peut partir. Il y a des tas de femmes célibataires. Mais dans l'imaginaire de l'enfant, il se construit avec une image masculine et une image féminine.
Donc à vous entendre ce matin, Jean-Léon Etty, vous êtes plutôt défavorable à...
Oui, je suis plutôt défavorable à cette idée.
Ouais. Et autre question aussi qui touche la bioéthique.
Parce qu'il y a de l'incertitude. Quand il y a de l'incertitude, on doit avoir un peu de précaution. Moi je suis un scientifique, je suis médecin, j'aimerais qu'on me montre des études qui disent, finalement, vous savez, dans la société, on se construit pas forcément avec des repères, et on peut se construire avec un seul repère.
Vous savez bien qu'il y a des
exemples sous les yeux.
Vous savez bien qu'il y a des études et des études qui se contredisent.
Mais quand les études se contredisent, et vous avez raison qu'elles se contredisent, est-ce qu'on prend le risque de le faire ou est-ce qu'on prend la précaution de ne pas le faire?
Bon, on entend votre avis en tout cas. Autre sujet sur cette loi qui porte votre nom, la loi Leonetti sur la fin de vie. Je ne sais pas si vous avez entendu il y a quelques mois ici à ce micro le témoignage d'Anne Baer qui a dû partir en Belgique pour mettre fin à sa vie et mettre fin à ses douleurs. Est-ce que vous avez été sensible à ça? Et est-ce que vous êtes sensible à tous ces appels pour qu'on aille plus loin que la loi Leonetti qui porte votre nom?
Écoutez, en 2005, on a voté une loi à l'unanimité. En 2016, on a voté une loi à l'unanimité. En 2005, c'était le gouvernement de Jacques Chirac qui m'avait demandé de faire ce travail. En 2016, c'est le gouvernement de François Hollande. Donc, moi, je veux bien qu'on remette en cause, chaque fois qu'on a voté une loi, qu'on remette en cause immédiatement dans le mandat suivant la loi. On a fait un an d'audition. On a eu des débats passionnés, approfondis, complexes.
Mais c'est le principe des lois de bioéthique que d'être remis sur le métier.
Non, mais peut-être pas tous les ans. Les décrets d'application de la loi de 2016 datent de 2017. La loi est en train de s'appliquer.
Vous dites qu'elle n'est peut-être pas appropriée, entre guillemets, au sens les gens ne se la sont pas appropriée.
Les gens ne se la sont pas appropriée. En 2005, on a dit finalement, une personne en fin de vie, on ne l'abandonne pas, on ne la laisse pas souffrir et on ne la prolonge pas de manière anormale. On lutte contre l'acharnement thérapeutique. En 2016, on inverse le rôle. On ne dit pas c'est un devoir de la société, on dit c'est un droit du malade. Le malade a le droit de ne pas souffrir dans les derniers instants de sa vie. Et donc il a le droit de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. C'est fort comme positionnement. Dans ce positionnement-là, je dois vous dire que récemment, j'ai des gens qui m'arrêtent dans la rue, qui me téléphonent, qui m'écrivent et qui disent « il s'est endormi et il est parti de manière apaisée et les endeuillés ». Ressentent à ce moment-là non pas la violence ou la rébellion qu'on peut avoir devant la perte d'un être cher, ils ont le sentiment que les choses se sont passées comme elles devaient se passer. Eh bien, moi, il me semble que cette solution-là, qu'on a longtemps débattue, il y a eu des détracteurs, certains pensent que c'est l'euthanasie, je ne le pense pas, d'autres pensent qu'il faudrait aller plus loin, mais ce que vous évoquez, c'est le suicide assisté, c'est pas l'euthanasie en fin de vie.
Il y a eu
Donc, il me semble que sur le problème de la fin de vie, je pense que la sédation profonde, l'endormissement à la fin de la vie, sur les gens qui souffrent trop, c'est quelque chose qui me paraît adapté. Après, ma vie vaut-elle ou non la peine d'être vécue? Je suis en fauteuil roulant, est-ce que ma vie vaut la peine d'être vécue? Je viens d'apprendre que j'ai un cancer, est-ce que ma vie vaut la peine d'être vécue? Vous voyez bien qu'on est dans un choix qui est beaucoup plus individuel. On n'est plus dans la solidarité nationale et j'aurais peur que on ait une contradiction dans notre action qui serait que on sauverait et on continuera à le faire, j'en suis sûr, les gens qui se suicident pour leur redonner la vie et le goût à la vie, et puis ensuite que de notre côté on donne la mort à ceux qui estiment que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je pense que c'est un sujet, c'est un débat complexe mais intime, individuel, personnel, et je voudrais pas que ce soit la société qui donne la mort à ceux qui en souffrent, parce que quand on se suicide, on peut toujours dire que c'est une liberté, en tout cas c'est pas un droit, mais cette liberté là, moi en tant que médecin, j'ai plutôt vécu des gens désespérés plutôt que des gens libres.
Est-ce que vous souteniez hier le mouvement de mobilisation dans les EHPAD, qui a été soutenu par quasiment l'ensemble de la classe politique?
Bah écoutez, je crois qu'il y a des évidences, voilà. Dans un EHPAD, le problème, c'est il y a de la technicité, il y a de la qualité scientifique, mais il y a surtout de l'humain. Et donc, ça mange beaucoup de temps humain. Quand on dit qu'il faut faire une toilette en 10 minutes, forcément, la toilette est mal faite. Et forcément, on bâcle. Et quand on bâcle, on ne respecte pas la dignité de la personne humaine, qui pour moi est quelque chose d'essentiel. Et on ne respecte même pas la dignité de gens qui font un travail remarquable et indispensable dans une société qui accepte que la vulnérabilité doit être secourue.
Que faire ?
Bah, écoutez, j'aurais bien aimé, moi, on avait un débat en interne dans le parti, on se disait, est-ce qu'il ne faudrait pas une petite part de CSG pour aider les EHPAD? Je pense que ça serait mieux compris que l'on prélève une part de CSG pour que la solidarité vis-à-vis de la dépendance soit optimale dans un pays comme le nôtre, plutôt que de le donner à ceux qui ont des actions en bourse.
Laurent Berger de la CFDT parlait ici hier à votre au micro de France Inter d'une contribution sociale sur la fortune prélevée auprès des plus gros patrimoines en France, une petite fraction et la reverser pour que les EHPAD fonctionnent mieux, pour mieux les financer. Ce genre de proposition vous semble baroque?
Ben écoutez, on vient d'enlever à 2% de la population la plus élevée dans notre société, on vient de lui enlever 4,5 milliards d'impôts. Peut-être qu'on aurait pu prendre la précaution de regarder ce qui se passe dans le pays, de regarder ce que sont les vraies solidarités. C'est un vrai débat que je veux dans le parti. Hein. Qu'est-ce que c'est que la vraie solidarité? Et est-ce que la solidarité de celui qui est dépendant n'est pas une priorité dans un pays comme le nôtre?
Jean Leonetti, restez avec nous, il est 8h55.